Chapitre 2. Les récompenses. Nous avons réduit les punitions à la privation de certains plaisirs et aux réprimandes, et même à moins que cela. Nous ne serons pas moins sobres de récompenses. Il suffit de prendre la contrepartie, de borner les récompenses à certains plaisirs et à des approbations ou des éloges. Ne soyons pas surpris de cette pénurie de moyens. L'abondance ni la variété ne sont des signes de puissance, et de même que la rigueur des peines n'en assure pas l'efficacité, l'exagération des marques d'approbation ou la valeur des objets et des avantages accordés ne donne pas plus de prix aux récompenses. L'idéal à réaliser consisterait en un mode de récompense sans valeur vénale ou matérielle et dont l'effet concourrait à l'éducation de l'enfant, c'est-à-dire à son amélioration morale, car en matière d'éducation, nous ne saurions trop le répéter, tout doit servir à l'éducation. Le bien devrait être fait pour l'amour du bien et non pour les avantages qu'on en peut retirer, lesquels viennent par surcroît. Nous savons que c'est là un idéal, mais lors même qu'un but ne peut être tout à fait atteint, l'effort n'est pas inutile. Nous devenons meilleurs rien qu'en cherchant à le devenir. Si donc nous voulons améliorer l'enfant, la première condition pour obtenir ce résultat, c'est de le croire capable de désintéressement, de dévouement, d'élévation, etc. Comment entreprendre une tâche si l'on a la certitude ou au moins l'espérance de l'accomplir? Quelle plus déplorable disposition que le scepticisme chez un éducateur, quelle peut être son action s'il n'a la conviction? On croit généralement que l'enfant a des défauts qui lui sont propres. On s'en va répétant après la fontaine que cet âge est sans pitié. Persuadons-nous bien au contraire que leurs défauts sont les nôtres, que nous sommes une même personne à tous les moments de notre existence. Seulement l'enfant donne un libre cours à ses pensées comme à ses mouvements. Il ne sait pas encore pratiquer la réserve ni la modestie et manifeste spontanément ses désirs. Ses défauts sont plus évidents parce qu'il n'a pas encore appris à les combattre ou à les dissimuler. Dans les reproches que nous leur adressons, combien pourraient être justement retournés contre nous? Avons-nous toujours eu soin d'éveiller leur conscience et de la développer une fois éveillée? Loin de là, il arrive souvent qu'on la fait dévier comme on fait dévier leur intelligence par les préjugés, comme on fait dévier leurs jambes par le maillot et la marche hâtive. Que de bien n'y aurait-il pas à faire, rien qu'en évitant le mal que l'on cause inconsciemment lorsqu'on altère le sens naturellement droit de l'enfant? Au lieu, par exemple, de nous borner à le louer de ce qu'il a fait de bien, nous ajoutons un avantage matériel qui diminue la valeur morale de l'éloge et lui ôte une part de son action éducatrice. Ne promettez jamais aux enfants, dit Fénelon, pour récompense des ajustements et des friandises. C'est faire deux maux, le premier de leur inspirer l'estime de ce qu'ils doivent mépriser, et le second de nous ôter le moyen d'établir d'autres récompenses qui facilitait votre travail. Lorsque nous disons à l'enfant « Si tu fais bien ton devoir, tu auras des fruits, des gâteaux, des jouets, des bijoux », il travaille non pour le plaisir de l'étude, mais en vue de l'avantage promis. « Toute idée de devoir disparaît, » dit Madame Guizot. Un calcul intéressé en prend la place, occupe seul son esprit, la tâche pourra bien être faite, mais l'enfant n'aura point appris à bien faire. Il faut éviter, dit Locke, de cajoler les enfants en leur donnant comme récompense certaines choses qui leur plaisent pour les engager à s'acquitter de leurs devoirs. On ne fait qu'autoriser par là leur amour pour le plaisir et entretenir une dangereuse inclination. Certains pensent que l'enfant prend ainsi l'habitude du bien et que l'habitude, une fois prise, il fait par goût ce qu'il a d'abord fait par intérêt. Or, l'habitude nous dispense précisément d'agir consciemment et volontairement. C'est en quelque sorte un instinct acquis. Où donc est alors le profit moral? L'habitude succède à des actes volontaires répétés. Elle en est la conséquence, mais le contraire n'est pas vrai. On ne fait pas l'apprentissage d'une qualité en pratiquant le défaut opposé. Agir souvent dans un but intéressé mènera à prendre l'habitude d'agir toujours par intérêt. Il est vrai que la plus simple approbation, l'éloge le plus discret, ne va pas sans flatter la vanité de celui qui le reçoit, que dès lors un intérêt s'y trouve attaché. La seule récompense idéale pure consiste dans la satisfaction du fort intérieur. Celui qui s'en contente n'en connaît pas de plus haute et qui lui cause une joie aussi complète. C'est la jouissance exquise des natures délicates et élevées. Aussi devons-nous nous efforcer de développer chez l'enfant le sentiment de l'honneur, le respect de soi, la sensibilité de la conscience. L'estime de soi-même, le souci de sa réputation, ne doivent pas être confondus avec la vanité ou l'orgueil, c'est le fondement de la dignité humaine. De tous les motifs propres à toucher une âme raisonnable, dit Locke, il n'y en a pas de plus puissant que l'honneur et la honte. Si donc vous pouvez inspirer aux enfants l'amour de la réputation et les rendre sensibles à la honte, vous aurez mis dans leur âme un principe qui les portera continuellement au bien. Toute récompense, autre que la satisfaction du devoir accompli, entraîne avec elle un avantage ou un profit. Elle excitera donc chez l'enfant des appétits malsains, ou la gourmandise, ou la vanité, ou la cupidité, ou l'amour du plaisir. Donner à l'enfant des mets qu'il aime, des gâteaux, des sucreries, des fruits comme récompense d'un travail bien fait, d'une leçon bien sue, c'est le rendre gourmand. Lui accorder un bijou, une parure, un vêtement nouveau, c'est le rendre vain. Lui donner de l'argent est bien autrement grave. Aussi, nous sommes d'avis qu'il n'en faut jamais donner aux enfants. Ils n'en connaissent pas la valeur, ne l'ayant pas gagné. L'argent devient pour eux un complice docile de leur fantaisie. Il leur permet de satisfaire des caprices, de vaincre des résistances, et les prépare ainsi à la vie facile. Voilà le danger. L'argent, qui n'est pas sanctifié, en quelque sorte par le travail, est essentiellement corrupteur. « Mon fils, disait avec une singulière force d'expression un homme du siècle dernier, l'argent, ça pue. Restent les plaisirs en général, tels que la promenade, les spectacles, les jeux, mais n'est-ce pas inspirer l'amour du plaisir que d'accorder un plaisir comme récompense? Quoi qu'on fasse, la récompense ne va pas sans un salaire. Ainsi l'exige la bête qui habite en chacun de nous et qui chez l'enfant est particulièrement exigeante. Le seul parti à prendre, c'est de réduire le salaire le plus possible et d'autant plus que l'enfant est plus âgé. N'exagérons pas, examinons les choses avec calme. Les motifs qui déterminent nos actions sont toujours complexes comme notre nature. Il n'en saurait être autrement. L'homme ne peut être moral d'une manière absolue. Lorsque le sauveteur arrache une personne en danger de se noyer, il éprouve certainement une joie très vive de sa bonne action. Mais à cette joie, pour ainsi dire instinctive, se mêle bientôt la pensée de la récompense qu'il pourra recevoir et le plaisir de recueillir les applaudissements de la foule. Le soldat marche au combat par obéissance, par amour de la gloire, par amour de la patrie, par désir de vaincre et avec l'espoir d'un grade ou de la croix. Tous ces mobiles coexistent et agissent simultanément avec des intensités différentes et variables. Mais la sœur de charité et le martyr ne sont pas exempts. Nous ne dirons pas de ses faiblesses, mais de ses sentiments, de ses impulsions diverses de notre nature complexe, car ils ont l'espoir de gagner le ciel, qui est une récompense d'une valeur infinie. Ainsi, toute bonne action n'est pas absolument bonne. Il y a toujours un motif intéressé auquel donne satisfaction la récompense concrète. Ces préliminaires établis, nous allons chercher les conditions auxquelles doivent satisfaire les récompenses. Premièrement, elles doivent être rares. Chacun sait que la facilité avec laquelle on obtient ce qu'on désire en diminue le prix et détermine bientôt la satiété. Même lorsque les choses n'ont pas de valeur intrinsèque, la difficulté de les obtenir leur en donne une fictive et si elles en ont une, elle se trouvera rehaussée. Le désir s'accroît en même temps que les difficultés. Si l'on se montre trop prodigue de récompenses, non seulement les enfants y deviennent indifférents, mais ce qui est plus grave, ils prennent de la suffisance et un sentiment de sécurité qui affaiblissent en eux tout ressort et les rendent impertinents et paresseux. Deuxièmement, les récompenses doivent être graduées. L'éloge pur et simple, tout en conservant sa valeur relative, doit être mesurée. Les nuances seront indiquées surtout par la force et la précision des termes, depuis la plus faible marque d'approbation jusqu'à la plus flatteuse. N'ajoutez pas de développement, ne dites que ce qui est nécessaire pour justifier l'éloge, rien de trop. Si par exception l'éloge est rendu public, ce doit être parce qu'il est de nature à produire une excitation salutaire sur l'ensemble des écoliers plutôt que pour causer, à celui qui l'aura mérité, une satisfaction plus vive. En louant les compositions de ses élèves, le maître ne doit être ni avare ni prodigue de compliments, de peur de leur inspirer ou le dégoût du travail ou trop de sécurité. Quoiqu'il soit fort bon d'augmenter l'ardeur que les enfants ont pour l'étude par les justes louanges qu'on leur donne, il le faut néanmoins faire sobrement, de peur de leur donner de la vanité et de les remplir d'une secrète et dangereuse opinion de leur prétendue suffisance. L'amour-propre, ou si l'on veut, l'estime de soi-même, est un mobile excellent dont l'excès seul, c'est-à-dire la présomption ou l'orgueil, est à redouter. L'éloge public est par lui-même excessif. Ceux qui l'entendent en aggravent les effets en renchérissant sur l'éloge, en y ajoutant leur propre approbation. Rien de plus fréquent que cette complaisance inconsciente des hommes par laquelle ils conspirent à élever davantage celui qui a déjà été élevé. Nous appuyons sur l'éloge comme sur le blâme. En outre, l'éloge public excite l'envie, la jalousie des émules ou des rivaux. En tâchant de leur donner de l'émulation, disaient messieurs de Port-Royal, il faut bien prendre garde de ne pas faire naître de l'envie pour les bonnes qualités qu'ils remarquent dans leurs compagnons et qui leur manquent. Puisque nous parlons d'émulation, distinguons celle entre les personnes de celle qui est relative aux choses. Dire à l'écolier « un tel a mieux fait que vous, il aura tel avantage », voilà qui lui inspirera de mauvais sentiments et qui embarrassera son camarade plus intelligent ou plus heureux. L'élève est-il paresseux ? On ne l'excitera pas au travail par ce moyen, et s'il pêche par le défaut d'intelligence ou par l'incapacité d'attention, on ne parviendra ainsi qu'à lui inspirer le dégoût de l'étude, comme il arrive qu'on se désintéresse d'un travail auquel on s'est appliqué et où l'on n'a pas réussi malgré ses efforts. Il n'y a aucun inconvénient, au contraire, à dire à l'enfant « Tu as mieux fait ton devoir, tu peux le mieux faire encore ». Ce mode d'émulation est même le seul qui puisse être employé lorsque l'enfant est élevé dans la famille. Malgré les inconvénients que présente l'éloge, c'est un levier trop puissant pour renoncer à s'en servir. Nous ne tenons à rien tant qu'à l'approbation de nos semblables. Elle nous est tellement précieuse que nous sommes sensibles même à celle des hommes que nous ne connaissons pas ou, qui pis est, que nous n'estimons pas. Troisièmement, il faut être très réservé dans le nombre et très scrupuleux dans le choix des avantages attachés aux récompenses. Nous avons indiqué déjà les écueils qu'il faut craindre en accordant des récompenses vénales. Il importe d'en user avec beaucoup de discrétion, de faire en sorte que l'avantage soit plutôt une conséquence naturelle qu'un appoint ou un salaire. L'effet nuisible en sera atténué si l'on donne à l'enfant des objets plutôt utile qu'agréable, tels que des livres ou des vêtements. Toutefois, on choisira des livres de lecture plutôt que d'études, des vêtements plus agréables que nécessaires, et on aura soin d'éviter, dans ces divers objets, la fausse élégance et le luxe de mauvaise alloi. Par là encore, on contribuera à l'éducation des enfants en développant le goût. Parmi les plaisirs, il y a un choix à faire. Non seulement il faut tenir compte de l'âge, du sexe, du goût, du degré de sensibilité de l'enfant, mais d'une manière générale, il faut lui épargner tout spectacle qui est de nature à causer des émotions trop fortes ou à fausser son jugement. Les impressions reçues dans l'enfance sont toujours très vives, et si elles sont violentes, elles exercent sur l'esprit une influence funeste qui persiste jusque dans l'âge mûr et peuvent occasionner des troubles sérieux. Ce que nous disons des spectacles s'applique également aux livres. L'enfant s'attache fortement aux livres qu'il aime, il y revient sans éprouver de lassitude ni d'ennui, il relit les passages qui lui ont plu. Aussi importe-t-il de mesurer l'émotion à son jeune et tendre cœur. Les vibrations violentes brisent la corde sonore délicate. Les promenades sont d'excellentes récompenses. Elles satisfont aux besoins d'exercice. Elles peuvent être associées à des jeux. C'est un plaisir simple, naturel, hygiénique, qui ne laisse aucune amertume après lui, qui apaise, qui calme les excitations maladives causées par la vie sédentaire et le surmenage. Dans ces derniers temps, l'usage s'est répandu d'accorder en récompense des livres de caisse d'épargne dans l'espoir de créer des habitudes d'ordre et d'économie dans des familles peu aisées où ces qualités sont plus particulièrement nécessaires et où elles font généralement défaut. Le but est louable, mais ne doit-on pas craindre de paralyser ainsi les élans généreux de l'enfant et de l'accoutumer prématurément à une économie qui peut dégénérer en avarice? L'esprit d'économie ne se crée pas avec de l'argent donné et n'est pas une qualité qui se développe dans l'enfance. Nous n'attachons de valeur à l'argent que s'il représente un salaire, le prix d'un travail, s'il nous a coûté quelque peine à acquérir, alors seulement nous ne le gaspillons pas. On ne suscite plus dans l'esprit d'un enfant les goûts ou les idées de l'âge mûr qu'on ne peut lui donner la taille qu'il atteindra à cet âge, et il y a beaucoup à parier qu'on produira chez lui des déviations morales comme on lui tord les jambes en voulant le faire marcher trop tôt. Le bon point est une des récompenses fort en usage dans nos établissements scolaires. Il y en a de diverses sortes et de valeurs différentes qui composent un système analogue à celui de notre monnaie. Récemment, ils ont été illustrés et représentent soit des personnages illustres, soit des animaux, des plantes ou des faits historiques. D'un côté se trouve l'image, de l'autre une biographie ou une explication. Cette innovation est bonne. Les dessins sont en général convenablement exécutés et les notes suffisamment exactes. Le seul point défectueux est le défaut d'appropriation à l'âge et au degré de culture de l'enfant. Notes et dessins ne sont pas en général assez simples. Nous n'avons pas de goût pour les croix et en général pour les distinctions honorifiques. Ce mode de récompense ne convient pas à des enfants. Il n'est pas bon de leur faire singer les hommes, de les familiariser avec ce que les hommes respectent, car on peut craindre d'émousser ainsi le sentiment de l'honneur. Si ce sont des récompenses, la durée en est trop longue et persiste après que la cause de la récompense a cessé d'exister. Si ce sont des insignes qui donnent à l'enfant, parmi ses camarades, un rang mérité par le travail ou la conduite, nous leur préférons ceux qui sont en usage dans l'armée, les galons. Les bons points servent dans certains cas d'exemption, c'est-à-dire de moyen de s'exempter des punitions. Dans la balance de la justice, la récompense et la punition sont choses de nature différente et qui ne se peuvent faire équilibre. Ce qui ne s'ajoute pas ne saurait non plus se retrancher. L'exemption a été conquise par le travail, tandis que la punition est la conséquence de la légèreté, de la paresse, etc. Il n'y a pas là de parité, et par conséquent, d'échange possible, sans blesser le sens moral. Toute punition doit être subie. Il est permis de regretter qu'un bon élève ait eu un moment de faiblesse, mais alors il eût mieux valu ne pas le punir. L'inscription au tableau d'honneur est une forme de l'éloge public. Il en présente les inconvénients et nous semble devoir être écarté comme moyen de récompenser. À plus forte raison, devons-nous redouter les distributions solennelles de prix. Le plus souvent, on voit l'intelligence, le travail facile récompensé au détriment des efforts sérieux. Ajoutons que la présence des parents, leurs exigences illégitimes, ont complètement faussé le caractère de ces cérémonies. Ce ne sont plus des distributions de prix, mais des distributions de livres. La coutume a passé des établissements privés aux établissements publics. Les parents se sentent, avec raison d'ailleurs, solidaires de leurs enfants. Ils sont fiers des succès que ceux-ci remportent et ils s'en attribuent une part, et par contre, ils se sentent atteints par les insuccès et accusent volontiers les maîtres de partialité. Dans les réprimandes qu'ils adressent à cette occasion aux enfants, on sent la révolte de l'amour-propre blessé, plus encore que tout autre sentiment. Ils veulent le succès avant tout, et l'enfant est blâmé pour n'avoir pas réussi, lors même que sa conduite et son travail n'ont rien laissé à désirer. Les maîtres ont la faiblesse de sacrifier à ces vues étroites. Ils multiplient les récompenses, et chaque élève, à fort peu près, emporte un témoignage sinon de satisfaction du maître, au moins de contentement pour les parents. Un établissement qui jouit d'une réputation méritée a voulu réagir contre cette détestable coutume. Nous avons dit plus haut qu'à l'école Turgot, on a mis en pratique le mode des récompenses sans avantage matériel et des punitions sans châtiment. Les unes et les autres se bornent à des inscriptions sur le livret de l'écolier. Voilà des améliorations notables, mais dont il ne faut pas pourtant exagérer l'importance. Dans l'application, nous procéderons de la manière suivante. Pour les simples encouragements, les notes habituelles suffisent. Passable, assez bien, bien, très bien, écrite ou énoncée. L'accent y ajoutera beaucoup. Un sourire approbateur suffira à l'enfant doux et sensible. Ces notes pourront être données à l'enfant seul ou en présence de toute la classe. Une action très méritoire sera portée à l'ordre du jour de l'école et l'éloge en sera fait publiquement devant le personnel scolaire tout entier. Une classe tout entière pourra être récompensée dans certains cas exceptionnels. Dans la famille, l'enfant pourra obtenir non à cause de son travail, mais pour la satisfaction qu'il aura donnée à ses parents, soit des objets, soit une partie de plaisir.